ça, moi, je savais pas c'est quoi la France. Enfin, je savais pas si ça existe ou pas.
Et nous, on a trouvé le coin le plus impossible possible parce qu'on savait rien sur l'agriculture encore.
Ça, je me dis, bon, ici, c'est la liberté des paroles. Et ça, j'ai bien aimé.
Piero Marcel, il lançait des pierres à ma sœur Rita, macaroni, puis ils se sont mariés.
Nous sommes Carrefour ici, et c'est, j'adore ça. Parce que dans cette Carrefour, vous pouvez trouver tout le monde.
Si on est attentif, il y aura seulement un petit trait, même si c'est un truc comme infime, quoi, qui nous dit.
Montagne cosmopolite.
Здравствуйте, меня зовут Валентина Васильевна Кутя, это так по-русски. Я родилась в городе Тбилиси, это Советский Союз, теперь это Грузия, и теперь живу в Ди. Je suis Валентина Кутя, je suis née à Тбилиси, c'est Georgia maintenant, а вот c'est Union Soviétique, et maintenant j'habite à Ди. Je suis russe. Je suis née à Tbilissi, donc ça c'est les montagnes. Dans cette époque, nous avons habité à montagne. Et voilà, c'est pourquoi c'est mon choix, parce que c'est un petit peu comme mon montagne, mes montagnes natales. Mon papa c'est officier, notre famille quittait les montagnes pour aller à Moscou, parce que mon papa, il était à l'académie. Et donc voilà, je commence à aller à mon école à Moscou. Après 4 années, nous sommes changé notre habitation parce que mon papa a fini l'école. Et nous sommes partis habiter à Kaliningrad. Kaliningrad, c'est à côté de la mer Baltique. Kaliningrad, c'est ancienne Prussie. Maintenant, c'est enclave de Russie, mais avant, c'est seulement petit morceau. Et donc, pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que c'est là-bas, ancienne Prussie. C'est un espace dans la terre où c'est arrivé les premiers, les rois de Russie. Parce que les Russies qui commencent à côté de Dniepr et à côté de Volga, ils demandent quelqu'un, voilà, arriver chez nous pour être notre roi. Voilà, donc ce premier roi, si vous voulez, c'est là-bas. Donc je connais bien sûr très bien les langues biélorusses. Après, je continue ma école à Biélorussie. Et pour finir mon école, c'est Estonie. Donc voilà, je connais pas mal ex-république Union soviétique, mais avant c'est Russie, et donc je n'ai jamais imaginé que ça peut être pays dépendant et après c'est plus problème, comme aujourd'hui. Et donc, après que je finis mon école, mon université c'est Saint-Pétersbourg, et quand je finis mon université, j'étais pensé, je peux rester dans le Saint-Pétersbourg pour plus grande l'école. Parce que mon chemin, c'est doctorant dans l'histoire. Mais je quittais Saint-Pétersbourg. Parce que pour moi, qui allais dans le sud, vivre dans le nord pays, où il y a moitié année jour, moitié année nuit, c'est pas possible. Tu ne peux pas dormir pour été parce que c'est toujours soleil et tu es toujours fatigué. Et dans l'hiver, quand il faut travailler dans l'université, tu toujours veux dormir parce que c'est toujours nuit. Donc pour vivre à Saint-Pétersbourg, il faut aller là-bas, mais pas moi. Et donc, voilà, et parce que je suis jeune, je tombe amoureuse, et donc voilà, mon mariage. Et voilà, je suis trouvée à Moscou, où je reste assez longtemps. J'ai été restée là-bas cette année parce que je prends deux professions. Je suis pédagogue-psychologue et je suis historienne. Donc ces deux professions, elles donnent possibilité de travailler soit comme scientifique historienne, soit être professeur dans l'université, dans le lycée, etc. Voilà, c'est ce que je fais quand j'arrive à Moscou. Pour doctorante, il faut un petit peu attendre parce que c'est arrivé ma famille, arrivé les mes garçons, et donc voilà, j'ai occupé ma famille. Et donc, j'étais restée à Moscou, donc j'ai travaillé comme professeur d'histoire. Après, quand même, je commence travail pour mes thèses doctorantes, mais cette fois pas histoire, cette fois pour muséologie. Parce que c'est mon amour, c'est toujours les musées. Et donc, après que je travaille presque, disons, dans le professeur d'histoire, je prends concours pour être directrice musée. Et donc, je gagne mon concours et je reste assez longtemps au travail comme directrice musée. Même temps, je travaille pour mes thèses, donc je suis doctorante en muséologie. Et même temps, j'ai été méthodiste pour mon ministère d'éducation à Moscou. C'est moi qui occupe tous les musées qui étaient à l'école. Chez nous, ce n'est pas de les guides qui travaillent dans les musées, c'est pédagogue muséen. Cette époque, c'est quelque chose de très, très nouveau. Quand on travaille avec notre méthode, et donc voilà, je trouvais mon méthode personnelle, donc c'est pour ça que je passais doctorante avec muséologie. Voilà, et donc c'est très souvent chez nous les musées synthétiques. C'est ces musées où il y a tout. C'est pas seulement musée histoire, c'est aussi donc information avec économie, avec la culture. Très souvent dans les musées, il y a une salle où il y a les spectacles, où il y a les concerts. Très souvent, c'est ces musées qui organisent les conférences, table ronde, et beaucoup de travail scientifique, parce que chaque été nous a offert une expédition archéologique, par exemple. Ou expédition ethnographique, que nous sommes allés dans le petit village, dans la Russie, pour recherche. Voilà qu'est-ce que c'est musée Russie. Mais si nous pouvons parler pour les musées à l'école, très souvent l'école qui choisit quelque chose qui est plus proche. Donc si c'est l'école avec langue française, donc elle cherche histoire française pour présenter pour son musée. Et je connais 8 musées qui racontent l'histoire Normandie-Niemann. Normandie-Niemann, vous connaissez bien sûr. Normandie-Niemann, c'est une escadrille avec les pilotes français qui arrivaient à Moscou pour battre contre fascistes. Et donc cette histoire pour nous, c'est très 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 grande. Tout le monde à Russie connaît Normandie-Niemann. Si vous demandez Normandie-Niemann, tout de suite, c'est les pilotes français qui arrivent avec nous pour battre. Pourquoi il s'appelle Normandie-Niemann? Normandie parce que c'est les pilotes d'escadrilles qui étaient à Normandie. Et Niemann, comme le chef de l'armée qui donne ce nom pour escadrilles, parce que c'est très grande bataille avec les avions à côté de la rivière Niemann à Allemagne. Donc, mon histoire avec français, c'était commencé années 80 et quelques. Quand nous sommes arrivés première fois ici, avec Fédération des clubs UNESCO, dans le nord de Russie, c'est Picardie, pour faire premier festival. Qu'est-ce que c'est la culture traditionnelle russe? Voilà, parce que dans cette époque, je suis dans le groupe de travail, dans la préparation, les fédérations de clubs UNESCO à Russie. Voilà, et donc nous sommes arrivés ici pour présenter notre fédération et aussi pour regarder comment ça fonctionne ici à la France. Donc c'est un grand groupe, c'est 30 personnes qui regardent et qui analysent comment ça fonctionne les fédérations de clubs UNESCO avec tous les pays. Et donc dans ma groupe, il y a Italie, Allemagne, Togo et la France. Voilà, c'est un hasard qui est arrivé. Après quelques années, dans l'Assemblée mondiale à Paris, c'est toutes les fédérations qui présentent. Et donc, je demande à notre collègue japonais, parce que la Fédération des clubs UNESCO s'est arrivée en 1949 avec l'initiative des Japonais. Et donc, je demande, je dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment cette idée s'est arrivée chez vous, etc. Et pourquoi c'est comme ça? Mais elle dit, mais c'est très facile. Nous prenons tout ce qui existait déjà en France, c'est un système d'association, Et voilà, donc c'est exemple pour Fédération de Club UNESCO. Et pour moi, dans ce moment, comme les yeux qui sont ouverts, je dis, association, c'est qu'est-ce que c'est? Et voilà. Et donc, c'est ça, je tombais ici, dans l'Abrali Association, parce que ce moment, bien sûr, je ne parlais pas français, I speak English comme tout le monde. Mais pour moi, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est association? Et je tombais amoureuse avec cette forme volontaire des peuples qui vraiment existe en France assez longtemps, et c'est incroyable, ce système. Et voilà, donc c'est pour cette raison, nous sommes arrivés ici avec mon mari, qui est aussi étranger, et nous avons fait notre projet ici pour regarder comment se fonctionne cette association, comment c'est possible vivre avec cette forme pour partir après en Australie. Oui, c'est bizarre, c'est comme ça, parce que je n'ai jamais pensé rester ici en France et faire quelque chose en France ici. Quand nous avons organisé cette association, c'est 2002. Voilà, notre association assez longue. Donc, pour moi, c'est période quand je commence recherche pour savoir comment ça fonctionne. Parce que pour vous, association, c'est les outils, c'est habituel, et pour moi, pas du tout. Voilà. Et pour Christian, non plus, parce que lui, il ne connaît pas. Et donc voilà, nous avons commencé à faire ça. À côté commerce, parce que mon mari était commerçant. Et donc, voilà, c'est commence ma vie avec deux maisons, à Moscou avec mon travail, et ici, donc, avec notre projet, et ici. Et pour moi, c'est aussi intéressant à côté muséologie, parce que je continue le travail avec les magazines qui s'appellent les musées, pour faire analyse comment se travaillent les musées en France. Et donc, de temps en temps, je fais les articles là-bas. Donc voilà, il y a commande ça.
Mais comment vous êtes arrivé à Adi?
Arrivé à Adi, ah, c'est aussi hasard, parce que l'année 89, mes amis qui m'ont invité, mes amis français qui invitaient moi pour vacances, et donc voilà, nous sommes arrivés à Adi, voilà. Première fois, et quand j'ai vu les montagnes, je dis waouh, c'est comme chez moi, parce que je suis allée quand même à montagne, pour moi, c'est comme je reviens à la maison. Et donc voilà, quelques années, ça reste comme ça, donc j'étais habitée pour deux maisons. Et après, donc je prends une décision, ma fille qui grandit à côté de moi, donc elle est partie à laisser ici. Et après, je prends une décision de rester ici. Voilà, donc pour faire quelque chose, pour attendre que j'ai fini l'essai. Et je ne sais pas si vous connaissez, les femmes en Russie, elles prennent son retraite âge 55. À 55, mais dans mon histoire, parce que j'étais directrice musée, parallèlement, j'étais professeur histoire. Et quand je fais donc, mon deuxième travail avec les enfants à 10 années et un jour, donc je peux demander mon retraite à 50. C'est ce que je fais. Voilà. Donc je demande mon retraite et donc j'installe définitivement ici. Voilà. Mais définitivement, je suis toujours avec mon passeport russe. Donc, je suis allée ici, je commence à apprendre français, parce que si tu arrives dans le pays, donc c'est minimum qu'est-ce que tu es obligé de faire, c'est parler français quand même. Voilà, et donc voilà cette histoire. Et je commence à faire beaucoup d'expériences dans le domaine muséologie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons commencé avec mère qui est actuelle, avec Isabelle Bizois. Une époque, faire beaucoup les expositions thématiques dans la salle Joseph Renaud. Et nous avons touché beaucoup, beaucoup les pages histoire à Dibois. Et ici, chez nous, nous avons fait aussi exposition. Et voilà, nous sommes aussi maintenant dans le petit musée qui raconte l'histoire de Marseille.
Mais qu'est-ce qui a fait ici, sur le territoire d'Ibois, que tu as envie de rester, en fait?
Donc, mon décision de rester ici après, parce que maintenant, mon mari commence à être très malade. 3 années, nous avons battu contre ça. Mais c'est pas gagné. Donc, après décéder Christian, je prends la décision de rester ici quand même, mais pas seulement pour les montagnes, pas seulement parce que ma fille est déjà grandie ici, est déjà apprendre son profession, elle parle français, donc c'est, elle est comédienne, elle joue dans le théâtre, et dans les deux langues, voilà, dans la compagnie à Grenoble. Et je reste ici avec l'association, et parce que ici, Divoire, c'est quelque chose de très incroyable. Et je vois ça quand je travaille ici dans le café. Chaque fois que quelqu'un qui arrive chez toi, et tu peux comprendre pourquoi il arrive ici. Chaque fois, je demande pourquoi vous arrivez à Divoire. C'est mon question aussi. Et pourquoi cette question? Parce qu'il y a énormément d'étrangers qui arrivent ici. Énormément. Mais Divoire, cette terre, elle gère tout le monde. Nous sommes tous ici, comme moi, quand j'arrive première fois, comme chez nous. Nous sommes chez nous, nous aimons beaucoup cette ville. Donc, c'est une ville qui nous accueille et nous voulons faire quelque chose pour cette ville. Donc, j'ai été habité dans la grande ville, comme Moscou, c'est 18 000 habitants maintenant à Moscou. C'est incroyable. Mon musée, c'était accueillir seulement petit quartier à Moscou où seulement 1 million d'habitants. Et 5 000 habitants, presque 5 000 habitants à Die, c'est pas pareil. Mais ici, c'est fantastique parce que avec ces peu habitants, ici, il y a mentalité de ville, il y a mentalité de campagne. Donc ici, il y a tout comme il y a dans la ville, parce que chez nous, il y a sous-préfecture, donc il y a grande administration, il y a les commerces, il y a les banques, il y a les cinémas, il y a les médiathèques, il y a les musées, il y a théâtre, il y a tout, et tout ici, sauf cirque, voilà. Mais tous les éléments pour grande ville, c'est présent. Et quand même, c'est présent assez fort. Tout ce que à côté village. Il y a beaucoup d'artisanat qui travaille ici. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent ici. Je trouve que c'est génial, cette grande fête qui existe dans la ville, c'est transhumance. C'est vraiment incroyable. Nous avons fait un groupe, les enfants, l'école Beaux-Arts pour les enfants, qui est arrivée ici, à Moscou, qui est arrivée ici chaque année. Nous avons fait avec eux une enquête. Donc, c'est les enfants qui demandent, le public, dessinez-moi un mouton. Voilà, c'est ça le mot prétexte, ça je peux dire, pour savoir dans quel pays et dans quelle ville arrive notre public pour cette fête. Et après, nous avons fait une analyse avec les enfants. Donc, année 2012-2013, quand nous avons fait très, très active avec ça, 2010-13. Voilà. Donc, c'est 80 pays différents étaient présents ici. 120 différentes villes. Wow. Étrangers et français qui arrivaient ici. Voilà. Donc, et ça, c'est aussi c'est très intéressant. Et aussi, par exemple, Pour moi, c'est très intéressant aussi richesse la nature, le Divoire. Par exemple, dans notre café, vous pouvez boire les tisanes avec les plantes. Notre liste plantes, c'est 40 différentes plantes. 40. C'est 40 plantes, tout ce que vous pouvez trouver facilement dans le Divoire. Parce que richesse, diversité, les plantes, c'est incroyable aussi. Voilà, et donc c'est seulement ici, nous pouvons faire comme ça, c'est pas possible de faire ailleurs. Donc si vous voulez, deuxième raison pour nous, pour mon mari rester ici aussi, pour Divoire, c'est comme ça a été, existé les festivals Est-Ouest. J'ai commencé à travailler avec festivals dans l'année 2000. Donc, j'étais partagé avec festival pour préparer, parce qu'une époque, c'était préparer une série. C'est il y a festival avec les Volga, avec les Sibiri et avec les Moscou. Donc c'est tous les trois festivals et j'ai trouvé les places là-bas pour moi. Et c'est pour cette raison que je dis ok, c'est très intéressant parce que Divoire qui fait ça, ça c'est fantastique. Parce que nous sommes tous différentes, mais c'est ça, c'est très riche. Et aussi les festivals avec Arménie, avec Georgienne, parce que c'est aussi c'est l'ancienne république et les soviétiques. Donc pour moi, c'est présenter mon pays ici, c'est aussi, c'était très intéressant. C'est dommage, maintenant, c'est tous morts. Avec X raisons, je peux comprendre. Mais pour cette raison aussi, nous avons créé notre festival Lamslav. Nous avons créé ce festival, c'est déjà quelques années qui existe. Et encore, nous avons créé ça après analyse qui habite à Divoa. Donc, dans la famille slave, il y a 14 différents peuples. Donc, moitié se présente déjà ici, à Di. C'est incroyable. Plus présente, c'est polonais. C'est normal parce que les Polonais qui dans l'Union européenne, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Serbes, les Croates, les Ukrainiens et Biélorusses, Russes. Voilà, donc c'est déjà 8 qui étaient Macédoniens. Donc voilà, il y a déjà 9 qui sont déjà présentes ici. Plus que moitié. Mais chez Slav, si vous voulez, il y a une spécialité. Je ne trouve pas plus juste mon français, donc voilà, j'utilise celle-ci. Donc nous, quand nous arrivons dans notre pays, première, qu'est-ce que nous faisons? Prendre langue d'abord. Et donc, pour philosophie, accepter, adapter. Donc c'est pour ça que nous pouvons trouver notre maison partout. Mais nous gardons toujours notre tradition et notre âme, si vous voulez. Nous gardons ça pour nous, pour notre famille, mais dans la vie sociale, nous sommes pareils comme un autre. Et donc, c'est avec ce principe, vous ne pouvez trouver tout de suite les Slaves dans les Divois. Parce que lui, comme les Français. Et seulement ici, nous pouvons savoir. Quand je sers mon tisane et quelqu'un dit « Ah, je parle russe, pourquoi ?»« Ah, parce que ma famille est racine russe. » Quelqu'un qui parle avec moi polonais, je peux comprendre, et donc les Polonais qui comprennent que je parle russe. Et donc voilà, il y a une situation incroyable quand nous avons parlé, nous tous les trois, russe, tchèque et polonais, nous avons parlé tous les trois, avec tous les trois langues. Ici, nous pas trouver les mots lesquels nous pouvons comprendre, nous pouvons trouver avec une autre langue et se donner nos possibilités de comprendre. Dans l'association qui s'appelle Kaléidoscope, et donc notre but aussi, travailler avec ce dialogue franco-russe. Et plutôt, si vous voulez, il y a une but pour moi très très importante, c'est casser les stéréotypes négatifs avec les dialogues franco-russes. Pour image négative qui existe en Russie pour les Français et qui existe ici en France pour les Russes. Pour moi, par exemple, c'est fait très mal quand mes amis en Russie disent « Ah, en France, écoute, voilà, c'est les Français, c'est les radars, c'est les voleurs, c'est pas très, très propre parce que ce sont parfums, c'est pour cacher son odeur, etc. » Pour moi, c'est très, très mal et je commence à raconter. Écoutez, vous ne connaissez pas rien parce que tout ce que vous pensez, c'est pas du tout pareil. Je me souviens quand j'étais allée à l'école, quand j'étais petite, quand j'ai appris l'histoire de France, j'étais pensée à France et habiter les peuples plus pauvres dans le monde. Pourquoi je pensais comme ça? Je suis petit, ok, j'ai 8 ans. Les pauvres Français, pas de manger. Il est obligé de sauter derrière grenouille et chercher escargot. Voilà. Mais j'étais petit. Mais maintenant, je sais qu'est-ce que c'est. Mais en Russie, il y a adultes qui pensent pareil. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours expliqué qu'est-ce que c'est, comment c'est tradition, etc., etc. Tout ce qui m'est très nerveux, quoi, quelqu'un qui arrive ici chez moi, et, ah, vous êtes russe, vodka. Vodka, ok, vodka, qu'est-ce que c'est vodka? Voilà, donc je parle déjà assez souvent, et donc j'aimerais répéter encore ici. Et je commence à parler avec les clientes, je demande, ok, vodka, combien d'années existe l'alcool ici à Diwa? Combien d'années ça existe?
Depuis toujours.
Depuis toujours, voilà, oui, bien sûr, parce que ville de Die, histoire de ville de Die, c'est déjà plus comme 2000 années. Plus. Ville, c'est incroyable combien de temps elle existe. Et toujours, il y a l'alcool. Voilà, et donc, en France, qui apprend déjà d'habitude avec l'alcool, il consomme l'alcool comme un autre produit. Ça, c'est normal. Ok, maintenant nous revenons pour vodka. Vodka, c'est qu'est-ce que c'est et comment il est arrivé et combien d'années il existe. Les machines de distillation, c'est arrivé où? Donc, c'est ici, dans l'Europe, c'est pas assez longtemps qu'il existe. Quelques cent années qui est arrivé dans le pays nord, c'est pas seulement Russie. C'est aussi Finlandie, c'est Norvège. Donc, c'est tout ce qui est nord. Il casse très, très fort. Parce que notre organisme, il n'est pas habitué pour consommer alcool fort. Parce qu'avant, à Russie, comme à notre pays, existe alcool. Mais quel? C'est bière. Et c'est alcool dont la base, le miel. Ce n'est pas assez fort. Et encore, alcool chez nous, c'est parce que c'est compliqué à faire, si nous n'utilisons pas pour consommer chaque jour. Pour pas préparer manger, pas du tout, c'est seulement pour festivité. Donc l'alcool était consommé seulement s'il y a prétexte. S'il y a, ok, les amis qui arrivent, nous pouvons utiliser l'alcool. Donc, dans la tradition russe, n'existe pas ni apéritif, ni bois bon va que tu manges, ni alcool digestif. Donc ça, ça n'existe pas. Dans la tradition russe, nous n'utilisons pas l'alcool dans la famille. Mais parce que l'alcool, c'est quelque chose qui casse nous très fort, donc c'est l'alcoolisme qui est assez très fort. Et donc l'alcoolique maintenant qui veut boire, il cherche prétexte. Voilà, et ça, c'est très très triste. Maintenant, les dernières 10 années, les situations avec l'alcoolisme beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux, parce que dans la place alcool forte, ça commence à arriver bon vin et bonne bière. Voilà, bon vin qui fait dans le sud de Russie et bonne bière qui fait maintenant partout. Voilà, et donc c'est alcool fort, c'est diminué, assez remarquable, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, c'est quelle différence. Et chaque fois que je commence à raconter ça ici, pas seulement pour les Français, pour l'Irlandais, pour l'Allemand qui arrivait, parce que ici, nous sommes carrefour ici. Et c'est, j'adore ça. Parce que dans cette carrefour, vous pouvez trouver tout le monde. De temps en temps, c'est quelqu'un qui habite en Australie, qui arrive ici à Die aussi. Alaska, donc c'est habitant d'Alaska qui arrivait dans la Transhumance pour regarder. Donc voilà. Et je connais une autre histoire. Année 2010, nous avons fait échange culturel franco-russe, parce que c'était année changement culturel franco-russe. Donc nous sommes invités ici les Russes et les groupes français, c'est allé à Moscou, à Saint-Pétербург, donc nous avons fait ça. Et donc nous sommes organisé une groupe orchestre, c'est orchestre de chambre, c'est 4 personnes, qui allaient jouer musique classique à Russie, à Moscou. Donc voilà, c'est musicien qui revient. Et donc, je pas encore moment pour parler. Et donc, je vu le chef d'orchestre passer à côté de moi. Donc, je courais derrière lui. Jean-Louis, s'il te plaît, racontez comment ça se passe à Russie, etc. Et il dit, oh, non, c'est fantastique. C'est très, 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 très bien. Écoute, c'est votre public, très souriante. Nous pas attendez à accueillir comme ça. Et tout le monde qui connaît beaucoup de musique, etc., etc. Oui, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment vous boivez des vodka? Oh là là, c'est fantastique, je dis, comment? Je dis, mais écoute, Chez moi, dans la table petit déjeuner, il y a déjà bouteille de vodka. Je dis stop, parce que pour moi, ce n'est pas possible. Donc je dis, tu habitais dans laquelle famille? Non, ce n'est pas dans la famille. Nous sommes habités dans le petit hôtel. Ok, dans mon petit hôtel. Je téléphone et je parle avec l'administrateur. Je parle à l'administrateur. Donc je dis, Anna Ivanovna, s'il vous plaît, est-ce que vous m'expliquez? Parce que j'aimerais comprendre pourquoi dans la table notre ami français, à Mata, il y a bouteille de vodka. C'est pour quelle raison? Et c'est une dame qui n'est pas très très intelligente. Elle dit, Valentina, tu fatigues avec tes français. Je ne sais pas comment il boit. Avant manger, il boit. Quand il mange, il faut aussi boire. Après manger, il boit. Les amis qui arrivent, après, je ne sais pas. Donc je donne Mata, voilà. Vodka pour vous, bruit comme vous voulez. Donc, c'est stéréotype tous les deux. Parce qu'elle, elle pense français, elle boit toujours. Et français, elle pense russe, elle fait petit déjeuner avec vodka.